chers amis auditeurs, via le podcast et via Internet. En fait, ce que vous écoutez, c'est ce qui se passe dans le studio avant la prise de direct à l'antenne, puisque là, on est dans le studio de Radio Éphémère. En ce moment, il y a Radio Radio qui est diffusée. Et attendez. Oh putain, c'est nul. En fait, je le dirai sincèrement. Donc en fait, on se chauffe un peu parce qu'il est 11h57. Donc en fait, on va prendre l'antenne d'ici quelques minutes. Et nous, tout simplement, on se chauffe, on déconne, on se passe de la bonne zik. Et puis voilà, ça envoie. Et tout le bazar. Donc là, c'est un peu un petit bonus, une minute supplémentaire en direct, dans les conditions directes sur le stream en Angvorbis, sur le site internet de la radio, www.radio-fmr.net/live. C'est du Angvorbis, c'est pas du MP3, hein, techniquement, c'est un peu compliqué, tout le tringue et tout le bazar. Mais je pense que si vous nous écoutez sur le stream, vous savez ce que c'est. Si vous écoutez via podcast, ouais, non.
Bah, de toute façon, si on écoute via le podcast, c'est un MP3, donc tout le monde peut le lire, ça. Alors que les points OGG, il faut avoir.
Il y a les deux formats, il y a MP3 et OGG. Ah, je fais bien mon boulot, moi. Enfin bon, auditeurs de Radio FMR, service mondial, merci de nous écouter sur le flux Ogvorbis ou encore sur notre podcast. Notre programme va être relayé sur les 89,1 mégacycles en modulation de fréquence sur la région de Toulouse à partir de midi pile temps commun européen. Les sorties de l'appareil sont symbolisées sur votre écran en haut à droite par une croix ou un bouton rouge. La température au sol est de presque 10 degrés Celsius. Nous vous remercions d'avoir choisi notre compagnie. Dans l'attente de nos émissions normales, l'hymne officiel vous est interprété par Fred Rabold und his Bavarois Orchestra.
Yo! Thomas, garde la boue.
Eh ben, nos amis auditeurs nous ont rejoints. Et malheureusement, Radio Radio a mal réglé son chrono. Ils se sont plantés, une fois de plus. C'est dommage. Non, pour une fois, ils étaient presque arrivés. Enfin bon, voilà quoi. Plus cette émission, ça va être chaud aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Bonjour Thomas.
Salut Xavier.
Ça faisait un bail. Hein.
Eh ouais.
Eh ouais. Oh non, ils m'ont piqué la venue. Vite, sors-le. Mince. Bonjour, nous sommes le samedi 15 octobre. Il fait gris. Non, ça vient de se découvrir. Il fait vous écoutez la radio FMR avec vous jusqu'à 5h du matin. Comme tous les samedis, nous ouvrons avec les magazines suppléments week-end, BD, cinéma, télévision, DVD et baston, puis le cahier du sport. Et à partir de 15h, du mix avec Zarma Farah et du reggae. À 17h, Didor Dur, du punk. 18h, pour une fois que tu peux l'ouvrir, c'est une nouvelle émission participative. Faites chauffer les téléphones. 19h, Dada découvre la vie. Et oui, parce que nos amis Clark Nova, maintenant, ils sont le mardi, je suis super déçu. On peut plus annoncer de la pop communiste, etc. 20h, Last Hetero Experience. 21h30, Liquid Sky. Et 23h, Breakbeat Experience. Bref, que du bon, du dur, du goût, du sauvage, du... Wouah!
Éphémère, vous n'avez jamais écouté de radio.
Ouais, là, je crois qu'on se la pète un peu, hein, quand même. Hein.
Ouais.
Tu penses, ouais, sincèrement? Ah non, mais je crois que là, on se la joue vraiment un peu trop des fois. Mais bon, que voulez-vous, hein, vous êtes sur la poubelle des radios et des fois, on le fait sentir un peu aussi aux autres.
J'espère.
Ouais, enfin, je crois qu'on y va un peu sauvage des fois. absolument monstrueux. Toujours extrait de la compilation New Pop. Rouge rouge, décide-toi. Pour moi, c'est un tube monstrueux. Voilà. On entame les news.
Tu me feras ta... je te taxerai l'album.
On entame les news, ma foi. Ça va être très chaud. Parce que tout simplement, on devait recevoir donc Axel du Walk System qui devait parler donc du réaménagement donc de la galerie d'art en question. Plus exactement, la galerie d'art. Non, spoiler. Spoiler, parce que j'espère qu'il sera là la semaine prochaine. Il vient de nous appeler. Il est à la barre sur l'aise, puisqu'il est en train de préparer des fly pour un concert. On en parlera la semaine prochaine. Et puis voilà, donc l'émission du coup était super light. J'ai prévu qu'une BD au lieu des 4-5 habituels.
Ah ben ça fera du bien, tiens, pour une fois.
Ça va être super chaud. J'enlève mon pull là parce que là...
Merde, t'as un t-shirt Capitaine Flamme ?
Ouais, presque, parce qu'ils ont détourné les
oh,
couleurs.
Oh putain, attends, je vais enlever le sweat aussi. Là,
ah, c'est ça, tombe la chemise. Ah ! Et c'est quoi ça ?
Bah ça, c'est les 12 chevaliers d'or, c'est Saint Seiya.
Message personnel à l'attention de Sabrina. Si tu veux bien, je sais pas, taguer, le déformer, en faire une sculpture concrète de ce putain de t-shirt. Je ne veux plus que Thomas, il se pointe dans mon émission avec ça. C'est une horreur. Bah, Saint Seiya.
Bah, l'occasion se présente.
Bernard Minet. Bah.
Bon, ça va, Bernard Minet, il a fait juste le générique français, merde.
Bon, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
T'inquiète pas, je pense qu'au repassage, il va souffrir.
Ouais, dans le mauvais sens. Enfin, bon, on va arrêter de parler chiffon et on va parler peut-être des événements de cette semaine. Profitez tant qu'il fait encore beau en ville. Je rappelle quand même qu'on est en niveau 1 d'alerte de forte précipitation, bulletin de Météo France, et en niveau 4 d'alerte de fort bourrinage sur la pelouse du Stade de France, puisque tout à l'heure, il y aura Stade français, Stade toulousain. Du vrai sport, pas des sports de Tarlouse, là, où les mecs, ils se font des croche-pattes et à 14 km à 3 attaquants qui tombent, ou encore avec des systèmes super compliqués de qualification, etc. Non, du vrai, du costaud, du rugby. Et chez nos copains de Radio Campus, d'ailleurs, si je ne me trompe, normalement, il y aura un Sportaz, on aura les fans. Enfin, moi, j'en suis super fan, voilà, donc vous connaissez le principe. Vous mettez la télé, vous coupez le son, vous mettez la radio, et puis, voilà, les commentaires n'ont rien à voir. C'est un peu comme Richard Virin qui commente le Tour de France, mais c'est encore plus hallucinant, ça n'a rien à voir.
Encore menti.
Du sport, il a dit qu'il était loin d'être inintéressant, hein, quand même, en interview, le bougre.
Non, en commentaire.
Non.
En commentaire, hein. Un commentaire de retransmission sportive.
Oui, tout à fait. Oui.
Voilà.
Pardon, voilà. Mais bon,
c'est pas grave.
Ça, c'est personnel. Donc, tout ça pour vous dire que c'est la dernière journée du festival Printemps de Septembre, dont la 5e édition est consacrée au Vertige, sur Toulouse. Le Printemps de Septembre, donc, c'est un festival, au départ, de photographie qui est parti de Cahors. C'était le Printemps de Cahors, qui a été donc déplacé à Toulouse. C'est un... principalement... consacré à la photographie, mais c'est beaucoup plus art moderne, concert, puisqu'il y a eu donc deux soirées de concert, plus le off qu'a organisé Radio FMR. Il y a aussi des performances, et d'ailleurs je tiens à faire coucou à Ensemble, alias Olivier Allary, copain de classe qui m'a fait rentrer à Radio FMR. Et Thomas, tu peux le dire. C'était ce qui fait cette andouille.
Hein?
Bah, il a mixé l'album de Björk.
Ah oui, c'est vrai, c'est lui, ouais.
Encore un ancien de Radio FMR qui est allé loin, c'est dégueulasse, c'est déplorable. Ça devrait nous motiver plus pour faire une bonne émission. La science, en fait, c'est en cours cette semaine. C'est vraiment à voir, c'est de la vulgarisation, de la découverte, de l'initiation par rapport à la science. C'est loin d'être inintéressant, c'est là où le CNRS, le CNES, les facs, les chercheurs, l'INRA, et tous ces laboratoires de recherche, tous ces scientifiques, ces étudiants, font montre de leur passion, le font découvrir parfois d'une manière théâtrale, spectaculaire, à expérimenter soi-même. C'est aussi bien la cité de l'espace, sur la place du Capitole, sur les énergies alternatives, je crois. Et n'hésitez pas à aller dans les campus, à l'observatoire. Il y a vraiment des choses très intéressantes à voir. Moi, je l'ai fait plus d'une fois. Il y a du théâtre, il y a des performances justement autour de la science. On vous fait faire de la glace avec de l'azote liquide, ce genre de truc, c'est complètement délirant. Moi, en tout cas, ça me fait bien triper et c'est peut-être l'occasion. Encore une fois de plus, Supplément Week-end vous fait sortir et de la télé. Et donc, vous prenez votre petit baladeur et vous écoutez Radio FMR pour aller Dieu sait où, encore une fois. Enfin bon, voilà. On va... entamé, moi aussi, de mon côté, les news. Je change de fond sonore et zou. Avec... imaginez les histoires du petit Nicolas.
les textes de René Goscinny, vous savez, le celui qui a révolutionné vraiment la bande dessinée française, pas bande dessinée franco-belge, puisque lui, il était vraiment français. C'est lui qui a lancé Astérix, Is No Good, la rubrique Abrac, Gottlieb, qui a été le rédacteur en chef de Pilote, enfin...
Ouais, c'est quelqu'un d'important quand même.
Voilà, c'est vraiment, c'est lui qui a donné l'héritage actuel de la bande dessinée française. Je veux pas paraître cocardier comme ça, au contraire, lui ça le ferait marrer, puisque en fait il est originaire d'Argentine, il a travaillé dans Mad Magazine dans les années 50, et c'est le seul à avoir fait fortune, comment on allait en France, donc c'est assez amusant. Bref, René Goscinny avait une verve, une écriture qui était vraiment intéressante, un humour, il savait se mettre à plusieurs niveaux, il a fait des trucs pour les adolescents, pour les adultes, il a fait des trucs pour les enfants, et ben les trucs pour les enfants, c'est avec des dessins de Sampé, c'est le petit Nicolas. Imaginez les inédits de René Goscinny, lus par Alain Chabat, Patrick Timsit et Elie Semoun. Tous les trois sont des acteurs qui sont des gros amateurs de bande dessinée et tous les trois ont participé à des adaptations de Goscinny au cinéma, que cela soit le deuxième opus d'Astérix, que cela soit Is No Good, ils y ont mis leurs pattes.
Timsit, il a fait quoi sur Goscinny?
Il a fait partie d'Is No Good.
Timsit?
Ouais.
Ah bon?
Oui, il me semble.
Autant pour moi.
Non, bah, je me trompe sûrement, hein, parce que j'ai... Enfin bon. Bref, c'est en librairie depuis jeudi dernier, dans un coffret coédité par Imav et Gallimard, avec le bouquin Les Inédits du Petit Nicolas. Vous avez donc un CD avec donc des nouvelles qui sont racontées par Alain Chabat. Franchement, ça doit trop être trippant. Patrick Timsit et Elie Moon. Là aussi, j'attends de les voir s'adressant à des enfants, à des gamins sur les histoires du petit Nicolas, du bouillon. Vous savez, ça, si vous regardez la télé-réalité sur M6, là, le coup du surveillant général.
C'est sur Navarro.
Voilà, exactement. Donc, regardez-moi dans les yeux. Dans le bouillon, il y a des yeux. Donc, il faut regarder dans les yeux. Et voilà, c'est l'histoire du bouillon et tout. Ça, c'est un peu désuet. C'est vraiment une éducation qui était stricte à l'époque. On a complètement oublié, mais c'est vraiment cette Madeleine de Proust.
Au fait, Xavier, à propos de Goscinny,
ouais.
Y a le nouvel Astérix qui est sorti depuis hier en librairie.
Ouais, le ciel lui tombe sur la tête. Oui, et...
Bah, tu le chroniques pas ?
Non, je vais le casser sec. Il tente de remettre un peu de politique, comme dans Le Grand Fossé, Le Combat des Chefs. Et puis, il y a des références aux comics et aux mangas. Mais le coup des extraterrestres qui débarquent dans le village gaulois, oh, ça vaut même pas le jingle. Spoiler !
Non, à ce point ?
Hélas. Bon, il va bien se vendre, hein, mais comme Uderzo a déjà fini sa collection de Ferrari depuis un bail, il les a toutes. Hein. Tout est Ferrari, hein, même certainement double. Et je vois pas l'intérêt d'un album aussi mal fait. Bon, mais... Si ça va être l'événement littéraire, ça va être le bouquin qui sera le plus tiré en France, avec un million d'exemplaires.
Mais t'avais pas un copain qui avait une théorie intéressante là, Astérix n'est pas drôle.
Ah, ouais, ouais. Laurent Mélikian, qui donc est chroniqueur à l'association et critique de la, il est à l'association et critique de la bande dessinée, donc c'est un copain à moi. Il a participé avec moi à l'actuelle BD et il a dit, ben en fait Astérix c'est un drame, celui d'un gars qui a perdu son meilleur ami, avec qui il a créé Oumpapa, Tanguy et la Verdure. Oumpapa. Bref, en fait, tout simplement, Uderzo a perdu son rire et Astérix n'est qu'un drame. C'est voilà.
Salut du sport.
Bonjour Duce.
Ouais, je voulais juste ajouter que je veux juste dire un grand merci à Astérix. Juste s'il arrive à niquer le record des ventes de Houellebecq, c'est impeccable. Là, ça me va très bien. Quoi.
Ouais, c'est vrai. C'est énorme. C'est 1,2 million d'exemplaires en France, annoncés comme qui vont être vendus d'ici Noël. En Allemagne, le même chiffre. Et en plus, Astérix, c'est toute une saga en dehors de la BD elle-même. C'est-à-dire, il faut savoir que Uderzo et Goscinny ont découvert que Dargo était en train d'adapter Goscinny au cinéma sans leur en dire. C'était Astérix Gaulois, un film qui a été complètement oublié depuis. Il y a eu des procès avec Dargo. Finalement, Dargo a perdu. Ils ont perdu 40% de leur chiffre d'affaires, hein, en perdant Astérix, plus ce qu'ils devaient rembourser, etc. Il y a eu donc la fameuse disparition de Goscinny. Il y a eu l'album qu'a fait Uderzo, le seul album vraiment rigolo qui était Le Grand Fossé. Il y a eu
bon,
aussi.
Bon, faut pas dire ça. Il y en a fait, les premiers qu'il a fait tout seul, ils étaient quand même assez intéressants.
Oui, Le Grand Fossé, voilà, justement. Oui, c'était, qui est pas inintéressant.
T'avais Scheherazade aussi qui était vraiment drôle, et puis j'avais bien aimé Le Fils d'Astérix aussi.
Mais voilà, mais après la guerre des roses, et puis là franchement le coup des extraterrestres qui débarquent, non
encore
moi personnellement je ne peux vraiment pas adhérer à ça. C'est une c'est une catastrophe annoncée et puis point barre et voilà. Donc non, je n'en parlerai pas à l'antenne, je me refuse d'en parler.
D'accord, c'est clair.
Voilà, c'est sorti en kiosque, en librairie depuis hier. Édition Albert René, bien sûr. De quoi tu disais ? J'avais pas baissé les micros.
Mine de rien, tu viens d'y passer 5 minutes.
Oui, ça s'appelle un gag. Pardon, excusez-nous, hein, on est en direct et en même temps je fais ma prog musicale vraiment en live, donc c'est un peu chaud. Zou, donc du sport, enfin, je lui coupe son micro le temps qu'il se positionne correctement. Voilà, et on va attaquer les autres news, puisqu'on parlait de manga, de comics justement, avec, excusez-moi. Je vais y arriver, voilà. D'abord, à propos d'Angoulême, très rapidement une news. Yves Poineau, qui était le dernier historique de l'organisation du Festival de la Bande Dessinée, qui a lieu tous les ans en janvier, qui est un peu l'équivalent du Festival de Cannes pour la BD. Yves Poineau vient de démissionner de la présidence de l'organisation, du FIBD, ce qui fait que Jean-Marc Thévenet est seul aux commandes du Festival. Jean-Marc Thévenet, c'est un politique, il n'y a pas d'autre terme, c'est lui qui fait la présentation tous les ans de la cérémonie ex-alpha, donc du prix de la critique, qui est super mal vu dans la profession, on le supporte pas, donc ça va devenir quelque chose de rigolo. On en reparlera, c'est un peu politique hein, vis-à-vis de la bande dessinée, donc ça vous intéresse absolument pas. Beaucoup plus intéressant à côté, par contre, c'est Manga 60 ans d'histoire, qui vient de sortir aux éditions du Rocher, traduit en français, par Paul Gravitt. Paul Gravitt, c'est quelqu'un que j'estime, qui est extrêmement intéressant. C'est l'ancien curator, c'est-à-dire le conservateur du Comic Trust, c'est-à-dire du musée de la bande dessinée à Londres. C'est un expert international, il a fait plusieurs travaux très intéressants. Ben, du sport, je t'avais passé le bouquin sur les éditions Eagle, sur la bande dessinée de SF des années 50 en Angleterre.
Ouais.
Ben, de là où sont venues toutes les séries à marionnettes, Thunderbirds, etc. Ou encore Doctor Who, hein, on retrouve tout cet esprit, ça vient de là. Il a fait un bouquin sur les 60 ans de la manga. Paul Gravitt est un expert international, c'est quelqu'un qui est assez âgé, qui a de la bouteille, mais qui est pas inintéressant. Thomas, tu l'as rapidement rencontré.
Oui, rapidement.
Ouais. Mais bon, tu sens vraiment la richesse de ce gars, et vraiment, il aime s'investir dans les sujets, c'est pas inintéressant. On l'a pas encore lu, j'ai pas encore posé un œil dessus, mais tout le monde là-dessus est unanime. C'est un très bon bouquin sur la manga, sur l'historique. C'est des dossiers qui sont assez complets. C'est pas vraiment une initiation, mais en tout cas, vraiment quelque chose qui va bien avec.
Ça donnera l'occasion de le chroniquer quand on l'aura lu.
Exactement. Enfin, c'est un beau bouquin d'art, hein, ceci dit. Oui, je dis ça, c'est pour mon porte-monnaie. Et je tenais à dédier cette émission à J.A. et Magique Julien Chiez, ex-GameZoner. La GameZone, c'était l'émission bi-quotidienne de Game One qui parlait de jeux vidéo. Moi, je me suis inspiré justement parce que Thomas, j'avais refusé des chroniques sur le jeu vidéo dans cette émission. J'en voyais pas l'intérêt, je trouvais que c'était difficile. Et finalement, je me suis renseigné, j'ai regardé cette émission tout cet été. J'en parle sur mon blog. J'ai dit que c'était... J'ai dit dessus d'ailleurs que vraiment, ils avaient trouvé... vraiment une bonne alchimie, ça tient du même niveau que Supplément Week-end, mais eux, ils sont professionnels. Et donc, je tiens à le dédier à J.A. et Magique Julien Chiez, animateur de feu et qui donc ont quitté la Game Zone. J.A., pour toi, il y a une critique BD qui t'est dessinée tout à l'heure.
J.A. des colocataires sur M6
Thomas, t'es puni. Soit tu sors, soit t'entames la revue de presse.
Bon, ok, je sors. Attends, moi je déconne. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai que les colocs, Jessica.
Tu laisses Loloche là où elle est, sur Radio Le Mou, hein, on enchaîne et voilà, revue de presse, salut hop, zou. Bon, on commence ouais. Non, par toi.
Ah, par moi.
Oui, bon. c'est toi qui es puni, hein, mon coco, allez hop.
Alors, on va commencer par la chronique sur Première, le nouveau numéro de Première, le numéro 344, 2 euros chez le marchand de journaux le mois d'octobre, avec Matt Damon en couverture.
Yes.
Et Matt Damon à l'occasion de la sortie du film de Terry Gilliam, Les Frères Grimm, dont on parlera tout à l'heure. Hormis un portrait de Matt Damon assez intéressant, hein, on s'aperçoit que du duo qu'il faisait avec Ben Affleck au départ, c'est lui qui s'en est le mieux sorti par ses choix de films, etc. C'est un portrait qui évite un peu la langue de bois avec qui présente Matt Damon, c'est quelqu'un de super génial, mais aussi quelques témoignages de ses amis Xavier, tu t'es bien marié en voyant sur l'article qui commence le portrait. C'était... Alors attends que je retrouve le... Voilà. J'appelle pour vous parler de Matt Damon, c'est un abruti. Contactez mon assistante et je vous rappellerai. Ce message, laissé par Georges Clooney sur notre boîte vocale, était carrément alarmant. Voilà, enfin... il s'est fait enfoncer par ses copains, c'est génial. Et aussi, il y a un article sur les coulisses d'X-Men 3, avec un sous-titre, l'Antéchrist... entre en scène. Donc l'antéchrist en question, il s'agit de Brett Ratner, qui est le nouveau réalisateur, puisque Bryan Singer est parti à l'ennemi réaliser Superman
3, et ça sort...
Non, pas 3.
Superman Begins, pardon, excusez-moi. Voilà. Et d'ailleurs, qui va sortir aux États-Unis comme en France, en même temps,
oui, en même
face
temps.
À X-Men 3.
Alors, Brett Ratner, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est le mec qui a fait...
Ouais, dur.
Et il a fait Rush Hour 1 et 2 avec Jackie Chan. Donc dans l'article, il y a marqué, c'est ça, truc qui m'a fait super rigoler. L'annonce de son arrivée sur le projet suscite évidemment un tollé chez les fans qui imaginent déjà Jackie Chan reprenant le rôle de Wolverine et Cyclope se mettant en moonwalk.
Et note pour lui, c'est facile, il soulève les lunettes et... C'est voilà. Un trucage.
Et donc,
c'est forcément truqué.
Voilà. Bon, mais sinon, on peut parler aussi des nouveaux personnages hein, de X-Men 3. Il y aura Beast. Il y aura Kitty. Qui c'est qui aura Kitty Pryde aussi. Il y aura Angel. Juggernaut.
Hein?
Non. Bon, moi, je connais pas assez X-Men.
Non. Juggernaut, c'est un grand méchant. Angel, ça me semble un peu surprenant parce que j'ai toujours trouvé que c'était un personnage qui était super fade. Même Frank Miller n'était pas arrivé à lui donner une réelle épaisseur. Enfin bon, voilà quoi. Faut pas oublier qu'au départ, les tout premiers X-Men, dont il ne reste que Wolverine d'ailleurs. Cyclope, c'est le seul X-Men. Les tout premiers X-Men étaient que des Américains et c'était inintéressant au possible.
Là.
Ça a pas fait long feu très longtemps et puis voilà.
Donc voilà, c'était le nouveau premier le mois d'octobre avec Matt Damon en couverture.
Il y a une pub, montre-la du sport.
Voilà,
je sais pas s'il a vu parce
attends,
que
j'ai
lui
plein,
c'est.
J'ai plein de
c'est une pub télévision.
Pour
ouais, non, c'est pas
sport.
Celle-là.
Attends.
Ah oui, c'est
retrouve,
du direct. Hein,
je
chers
te la retrouve. Voilà. Tiens, Dus, regarde-moi ça. Page de droite, évidemment.
Ouais.
Donc, il s'agit de la pub pour la nouvelle série Kojak.
Eh ouais,
donc,
Kojak.
Elle est monstrueuse. Lis la tagline, moi j'adore. Non, à vote, du sport.
Donc, en fait, c'est une carte. Une carte avec la photo de Ving Rhames dedans. Ah. Et c'est quoi, il y a marqué dessus?
UV Soleil,
parce que Ving Rhames, c'est un acteur black qui interprétait Marcel Solas dans Pulp Fiction. Et puis ils expliquent pourquoi il est devenu noir, c'est parce qu'il a fait trop d'UV pendant toutes ces années.
Il est presque grec. Voilà, ah, comme ils ont dit.
Voilà, et pour finir la chronique sur Première, sachez que le mois prochain, le rédacteur en chef sera Gad Elmaleh.
Ah, ma foi, il risque d'avoir des surprises parce que quand même, en tant que présentateur au
César, ouais.
Il n'était pas inintéressant quand même.
Ce ça allait.
Ça allait. On continue la revue de presse avec Animeland numéro 115 est en kiosque. Ce numéro d'octobre 2005, je me souviens plus du prix. Love Ina en couverture, c'est une série qui passe sur France 4.
5,90€.
Ouais, et le motto est très bien, moi j'aime bien. C'est 5 filles, un garçon, plein de râteaux en perspective. Premier qui dit que ça me ressemble, je le sors direct, Manu Militari. Gros dossier Goldorak, vous savez Goldorak, et sur l'affaire Goldorak. Oui, il y en a un, mais ce n'est pas l'histoire du fameux fauteuil roulant, vous savez quand il change de position,
qui fait un
double demi-tour, ou de l'intelligence, de la reconnaissance vocale qui est tellement sourde qu'il est obligé de crier dedans. Non, il s'agit d'une affaire judiciaire sur des ayants droit parce que les coffrets DVD ont été sortis, et personne n'avait les droits pour les exploiter en France. Bref, c'est un micmac énorme. C'est rien que pour ça, c'est à lire. C'est là où on se dit ouf, c'est compliqué. C'est vrai que négocier les droits avec le Japon en général, faut bien commencer parfois un an et demi avant. C'est très rare que, par exemple, vous achetez des droits en moins de 6 mois comme ça. Il y a un travail vraiment de préparation qui est assez compliqué. Anime Grand Prix France, donc il y a les résultats.
Ouais, d'ailleurs, ça, comme c'était la première chronique que j'avais fait dans cette émission, ça me fait penser que ça fait quand même un an que je fais cette émission avec vous.
Et que tu t'étais bien planté.
Oui, j'ai complètement raté ma chronique.
Bon, c'était ta première, c'était
normal. Oui, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est que l'animé Grand Prix. Hein. Qu'est-ce que tu veux, tu me laisses un petit
oui, vas-y, vas-y.
En parler.
Ah bah oui, c'est
alors,
ça.
J'ai cité l'article parce que c'est quand même assez rigolo. Vous étiez moins nombreux cette année à participer à ce sondage. La raison est simple. Nous n'avions pas pu mettre en place de système de vote par Internet et le retour au bon vieux bulletin de papier en a visiblement découragé plus d'un. Néanmoins, avec 497 réponses, bon voilà, donc en fait,
on a voté.
Un animé Grand Prix avec des rubriques comme les rubriques bah, les Césars et tout. Donc on a les meilleures révélations 2004-2005, ensuite les meilleurs films cinéma, meilleures séries classiques. Alors c'est un sondage réalisé par à l'attention des lecteurs d'Animeland et qui renvoie ça avec le petit bulletin pour dire qu'est-ce qu'ils ont préféré. À part la révélation qui ne concerne que cette année, les autres rubriques, par exemple meilleurs films cinéma, ça concerne l'ensemble des films d'animation sortis en France. Alors Xavier, je me suis renseigné avant et je sais que tu n'as pas lu cet article.
Ah l'enfoiré.
Pour la révélation 2004-2005, tiens au hasard, d'après toi, quelle est la série qui a été élue meilleure série révélation par les 497 mecs qui ont répondu?
Moi j'aurais mis personnellement Les Ailes Grises, mais je suppose que c'est pas ça.
Non. C'est une série qui a été diffusée sur Canal+, en tête. D'animation.
J'étais où?
Lane.
Comment?
Lane.
Ah non,
ça fait longtemps. Non,
c'est la révélation 2004-2005, cette année en fait. Non, il s'agit de Full Metal Alchemist, talonné de près par Standalone Complex.
Ah.
Voilà.
Ah.
Et
c'est vrai que Standalone Complex l'aurait mérité quand même. Hein.
Ouais, et pour la meilleure série classique, n'en déplaise à Xavier, bon alors en tête c'est évidemment Cowboy Bebop, ça ne change pas.
Grandiose.
Et en deuxième c'est Saint Seiya.
Voilà. Je vais le découper son t-shirt, je vais le découper.
Et concernant le meilleur film cinéma, c'est Studio Ghibli qui truste tout. Numéro 1, Le Château Ambulant, c'est quand même son film le moins réussi à mon sens. Princesse Mononoke en 2, Le Voyage de Chihiro en 3, et en voilà. Par contre, Innocence arrive en 4ème position. Et voilà.
Y a quand même un public arty. Faut pas oublier qu'Animeland a changé sa maquette et exclusivement consacré maintenant à l'animation japonaise.
Ouais,
c'est bien dommage.
Ouais, quasiment,
c'est dommage parce qu'ils auraient pu mettre quand même en couverture ou dans le sommaire qu'il y avait un excellent dossier sur voilà ces gros mythes avec interview de Nick Park là-dessus.
Dit, de façon la Japanime, c'est ça qui intéresse les jeunes aujourd'hui.
Voilà. Donc si je chope Yvan West-Laurent à Angoulême, je vais le croiser.
Sachant que le premier Disney qui arrive dans le classement des meilleurs films cinéma, il s'agit des Indestructibles. Et désolé Sabrina, mon voisin Totoro n'arrive qu'en 14ème position.
Bon, d'accord. On continue avec un dossier donc sur Cachern, un film très très coloré adapté d'un dessin animé début année 1970 par un clipper. La sortie du film est le 26 octobre. Alors la question c'est, est-ce qu'il est trop flashy? Est-ce qu'il est trop complexe? Est-ce qu'il est trop inattendu? Alors certains diront trop fouillis. En tout cas, moi, je repérais des références à The Wall de Pink Floyd, le film, en soi. Enfin, Thomas, tu l'as vu comme moi.
En sous-titré anglais, moi, j'avais moins compris.
Oui, parce que le coffret japonais DVD est absolument fabuleux.
Ah,
il est à tomber. Et le film en lui-même, c'est un clip continu. Ouais. D'ailleurs, c'est un clip de réalisateur de J-pop avec un style qui est...
Au point de vue graphique, on pourrait peut-être, le rapprocher d'Avalon pour le traitement de l'image, l'appel
avec des couleurs vraiment très saturées, quand même.
Ouais. Et puis, c'est ça, je viens de trouver le concept en fait. C'est vous prenez Avalon et vous y mettez des héros de J-pop et des super-héros à la Bioman dedans.
Ah l'enfoiré!
Voilà, c'est ça.
Non.
Ose dire que c'est faux. Non? Allez, peut-être qu'on le chroniquera quand il sortira au cinéma, ce qui est très prochain.
Animeland en kiosque, c'est le numéro d'octobre et on a fini la revue de presse. Midi 29 minutes sur Radio FMR, c'est supplément week-end et donc logiquement à cette heure-ci on doit passer la pub. La pub. Ah non, pas de pub. Merci la régie finale. Pourriez prévenir sur ce genre de conneries? Non, je déconne. C'est moi qui fais la régie, en fait. Je fais des petits sketchs et tout. Bon, ok, c'était nul. On va entamer
la bande dessinée.
Et puis voilà, il y en a qu'une cette semaine. Donc pour ceux qui le savent pas, Axel du Volk System était invité dans cette émission, il nous a prévenu qu'il pouvait pas venir, et j'avais prévu qu'une bande dessinée à chroniquer, et je vous jure, j'ai un tas, il y en a pratiquement 12 à lire sur ma table, et finalement, on s'en retrouve avec 3, donc ça va être un chacun, et puis voilà, et je suis désolé, mais on n'a pas le jingle spécial alerte pour le tien, Thomas.
Ah, pas grave.
Et bon, je vais commencer donc par un changement d'ambiance, voilà. Puisqu'il s'agit, ça va chambrer tout à l'heure, puisqu'il s'agit du nouveau Yoko Tsuno qui vient de sortir en librairie chez Dupuis. Le 24e tome, s'il vous plaît, s'appelle le 7e code. Non Thomas, c'est pas la peine, on fait pas de la télévision, hein. On n'est pas au bureau, tu peux le ranger. Toujours scénarisé et dessiné par Roger Leloup. Les aventures de Yoko Tsuno se déroulent soit sur Terre dans le présent, soit parmi les Vinéens, soit dans le passé. Bah là, Roger Leloup reste classique, entre guillemets, en nous envoyant dans l'Amazonie. Et d'ailleurs, dans la série, il me semble que c'est la première escale en Amérique du Sud. On commence en survolant dans un hydravion copiloté entre Yoko et Mac Kinley, un pilote comme ça, un vieux fou volant écossais qui trace sa route dans son avion sur le plus long fleuve de la Terre. Un vieux biplan piloté par un casse-cou leur coupe la route, une jeune fille de 14 ans qui mène la vie dure à son père. Première péripétie d'une aventure bien corsée. Un sous-marin coulé dans le fleuve, des missiles soviétiques, un savant avant-gardiste et une étrange substance. C'est dans les restes vaporeux des grandes légendes de l'espionnage, dans les ruines rouillées de la guerre froide, que Yoko, Vic, Paul et Rosé vont poser leurs pieds. Une partie d'échecs vertigineuse s'engage, car justement ce qui les fait venir dans l'enfer vert, c'est une invitation à jouer aux échecs, s'il vous plaît. C'est largement moins confus que les deux précédents tomes, La Jonque Céleste et La Pagode des Brumes. Roger Leloup nous plonge dans une aventure bien ficelée, avec des personnages qui ne sont pas de pâles clichés, mais qui ont un solide background et surtout des émotions. On est largement dans les gammes d'une série, laquelle est elle-même schizophrène entre ces trois univers, puisqu'il n'y a pas vraiment de lien à part les personnages entre tous ces univers. Mais pour le fan qui suit ça depuis les premiers albums, c'est vraiment du bonheur en barre. Bon alors, les héros louchent un peu parfois, mais les décors sont somptueux. Et comme quoi, Roger Leloup, il a plus de 70 ans, on peut avoir 70 ans, réaliser seul scénario et dessin d'une série qu'on anime depuis les années 60, et garder une excellente facture et cohérence. Et toc pour Astérix. Et voilà, zou. Du sport. Tu voulais dire quelque chose sur Yoko Tsuno, toi qui en es fan, je suppose.
Non, parce que moi j'ai largué. Hein. Moi je lisais ça quand j'étais petit, quoi. Mais bon, au fur et à mesure que ça sortait, hein, tu sais quoi. Parce que bon, c'était d'accord. Généralement des bandes dessinées qui paraissaient donc dans les hebdos qu'il y avait, hein,
dans Spirou,
et donc on achetait ça chaque semaine, on avait une page ou deux pages, et à la fin, ça faisait une histoire complète, et donc
mais surtout que c'est de la SF qui est très bien dessinée, sur lequel il met des détails techniques absolument monstrueux. Il est pilote de planeur et il faisait plusieurs rubriques. Il faisait une rubrique qui s'appelait Décibel, dans lequel j'ai appris les bases un peu, hein, de l'audio. Il faisait aussi une rubrique sur l'aéromodélisme. Roger Leloup, c'est vraiment un gros fan. Du sport, tu veux parler d'une bande dessinée, ça devient une manie, hein, j'ai parlé la semaine dernière.
Non, mais là, ce coup-là, tu m'en as passé trois, hein, celle dont tu as parlé la semaine dernière.
Mm-hmm. La semaine dernière, c'était quoi? C'était Sillage dont tu avais parlé?
Ouais, il y avait Sillage entre
autres. Ouais, j'ai écouté, ouais. C'était très bien.
Ouais, et là, tu me les as passés comme ça, en me disant, je comptais pas du tout en parler, hein, de toute façon, quoi. Bon, les deux premières, bon, pas trop. Cyclope et machin, là, ça va. Mais par contre, là, je suis vraiment tombé sur un truc, je m'y attendais pas du tout, c'est Crush. Hein, c'est sorti chez Angle Comics, hein, c'est-à-dire c'est une nouvelle petite boîte. C'est une nouvelle petite boîte, hein, qui veulent faire un petit peu comme les Panini, comme les Marvel, c'est-à-dire petite boîte indépendante, mais qui développe un certain style avec des jeunes dessinateurs. Là, c'est Jason Hall et Sean Murphy qui réalisent Crush. Alors Crush, c'est quoi? Ça fait penser à un univers qu'on connaît bien dans les séries, dans les nouvelles séries, hein, l'univers adolescent, bien entendu, vachement exploité dans les séries. C'est normal, hein, c'est le public qui est visé également. Et là, ce qui est encore en plus très intéressant, c'est que bon, scénaristiquement, c'est vachement bien construit et qu'il y a des petites références justement aux séries que j'aime bien. À un moment, on fait pas ton Dawson, ou alors ah ça y est, elle se reprend pour Buffy. Enfin, vachement explicite. Bon, disons, on est vraiment, on sait où on est. C'est l'histoire donc de Crush. une jeune fille qui s'appelle pas comme ça au départ. Putain, j'ai même oublié son son prénom. Bon, c'est pas grave. Et donc, au fur et à mesure, à l'aube de ses 18 ans, c'est le jour de ses 18 ans que commence la BD, elle se rend compte que elle commence à péter les plombs par moment, mais elle sait pas d'où ça vient. Et il se passe qu'en même temps, elle a subi quelques petites déconvenues d'ordre amoureux, d'ordre, on va dire, relationnel, hein, au lycée et tout. Enfin bon, vraiment, c'est les angoisses d'ado à fond les manettes. Et il se retrouve que les gens avec qui elle a eu des petits problèmes, hein, se retrouvent assassinés dans la nuit, sauvagement égorgés, enfin des trucs pas possibles. Et elle commence à se poser des questions, elle a des périodes d'absence. Et qu'est-ce qui va déboucher? On va déboucher sur la fin de l'histoire. Je peux pas
spoiler. Elle s'appelle Lise, la fille, hein.
Ouais, Lise, voilà. Je peux pas spoiler parce que c'est pas fini, hein. Je veux dire, quand on arrive à la fin du bouquin, c'est pas fini. Il y a celui à venir. Et il se passe que elle subit quelques changements morphologiques, on va dire, hein, mais dont elle ne sait pas la provenance au départ, mais qui peuvent s'avérer vraiment très 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 dramatiques. C'est vachement bien traité.
J'avais bien spoilé quand même, hein, la semaine dernière. Je pense.
Mais tu crois que les gens ils écoutent ton émission?
Je préfère nettement que les gens découvrent. Hein. De toute façon, on est accroché dès les premières pages. Hein, je veux dire, hein, on plante le décor et tout. Ça commence très très gentil, mais ça pète assez vite, c'est pas mal, c'est bien dessiné, donc c'est Crush chez Angle Comics par Jason Hall et Sean Murphy.
Je suis un peu mal là parce que vous avez des BD assez bien et puis là je t'avais emprunté ça là juste pour lire dans le métro quoi. C'est le manga Monsieur est servi chez Taifu Comics par Morishige. Donc c'est l'histoire d'un jeune qui, il y a son grand-père qui vient de crever, et puis il lui dit t'es l'héritier de la maison, il faut que t'ailles dans la grande baraque, Et en arrivant, il s'aperçoit qu'il y a une armée de soubrettes qui a son service, qui sont engagées pour obéir à la moindre de ses volontés. Donc il y a parmi les soubrettes, il y a la fille super adorable et tout, mais elle est un peu bizarre quand même. T'as la fille qui s'occupe de tout ce qui est protection, donc elle est un peu plus carrée quand même. Il y en a une autre qui est la scientifique de service qui fait que des bêtises, etc. Moi je m'attendais à un peu plus chaud parce que les soubrettes et tout, ça peut laisser présager moult situations rigolotes. C'est vrai que il y a des scènes de sauna, il y a des scènes de...
J'ai failli mal comprendre sur le coup.
C'est marrant, s'il n'y a pas de quoi fouetter un chat non plus, hein. Miaou. Voilà. Allez. Monsieur Servi.
En clair, Thomas, il a vraiment été déçu.
Non, c'est marrant, ça se laisse lire, c'est rigolo, hein, on va pas se cacher non plus. Il faut le voir pour une série humoristique et pas du tout pour une série chaude. Voilà.
Mais enfin, t'as quand même la lunette là qui vient de péter. C'est vrai, c'est rigolo, mais surtout tu peux dire ce qui se passe dans ce tome. Le garçon en question décide de s'habiller en soubrette.
Ah non, il décide pas. En fait, suite à un cruel malentendu dont seuls les mangas peuvent vous faire ça, en fait, il y a les filles qui croient comprendre qu'il est un peu gay, il aime se travestir et tout, donc elle lui offre un costume de soubrette et
c'est complètement pétage de plomb.
Voilà, donc okay. Il s'agit de Monsieur Service, le tome 3 chez Taifu Comics, et c'est une série de Morishige.
Thomas, voilà. Tu vas t'en sortir un peu mieux sur la suite.
Ouais.
One thing I am. return, I will to Brazil.
Vas-y Thomas, c'est à toi. Wouh,
ça c'est excellent, ouais. Donc pour ceux qui n'auront pas connu, c'est Brazil.
Repris par Pink Martini. Excellent album, sympathique. Mais si on le diffuse, c'est pour une raison très spécifique.
Oui, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est parce que Brazil était un film réalisé par Terry Gilliam, et il se trouve que le nouveau Terry Gilliam est sorti depuis quelque temps ici chez nous. Il s'agit des frères Grimm. Il s'agit des frères Grimm avec Matt Damon, Heath Ledger, qui est après les deux frères Grimm, Jonathan Pryce, le héros justement de Brazil, qui incarne un personnage à l'opposé, méchant napoléonien par excellence. Peter Stormare, qu'on avait remarqué chez les Farcoen notamment, et Monica Bellucci.
Ouais.
Voilà. Yeah.
Bon là, je suis un peu déçu, on le voit pas trop, mais bon. Ouais. Donc le pitch, c'est nous sommes plongés dans l'Allemagne du 19e siècle. L'armée de Napoléon occupe le pays. Deux frères, Jack et Will Grimm, héros locaux pour avoir débarrassé les villageois d'entités diaboliques. Sont sur un petit road movie au départ. Voilà. Sauf que ces pseudo-fantômes dont ils débarrassent les villageois, ces sorcières, ces loups-garous, sont eux qui les fabriquent avec leurs complices. Ah, c'est pas bien ça, c'est pas bien.
Non.
Jusqu'au jour où ils atterrissent.
C'est la mise en scène, en clair, c'est une arnaque.
Ah ouais, c'est une arnaque, c'est des arnaqueurs, tout ce qu'il y a de plus vil. Et jusqu'au jour où ils atterrissent dans un village où plusieurs jeunes filles ont disparu, mais ça c'est pas leur faute.
Ah, merde.
Ah, et voilà, donc ils vont aller là-bas pour aller délivrer les jeunes filles. Sinon, adieu leur réputation et adieu leur tête, quick. Les deux frères. Donc, Matt Damon incarne le frère moderne, le côté pragmatique, adulte. Heath Ledger, qui incarne le jeune cadet, en fait, lui, il incarne plutôt le héros guillemien par excellence. C'est le héros un peu rêveur, lunaire, un peu gentiment givré, amoureux. Jonathan Pryce dans Brazil, Robin Williams dans Fisher King, Johnny Depp dans Las Vegas Parano. Mais ça, c'était un peu différent. Alors, au départ, il faut savoir que pour le rôle tenu par Matt Damon, ça devait être Johnny Depp qui devait incarner le personnage. Mais on apprend dans l'article, justement, dans Première, que le producteur ne l'a pas jugé assez commercial. Ça, c'était avant Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes est sorti pendant qu'il tournait ça, le producteur... Ah, merde.
C'est bête, ça.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le film?
J'ai cru comprendre qu'il y a eu un gros quiproquo, d'ailleurs, sur le final cut du film que Terry Gilliam voulait une fois de plus conserver jusqu'à la fin.
Ouais, en fait, c'est
pour ça que ça a été un peu retardé, non?
Ça a été un peu compliqué. Terry Gilliam, il voulait défendre bec et ongles de sa vision du film. Le producteur, faut savoir que le producteur l'a lâché au moment juste avant de tourner avant, et c'est les frères Weinstein de Feu Miramax qui ont repris les rênes. Faut savoir que les frères Weinstein, des fois, ils peuvent sortir des films et monter le buzz pour les Oscars. Ils sont très, très forts là-dessus, mais c'est quand même super. Les tournages et les projets de films deviennent rapidement des enfers pour d'autres réalisateurs. Et là, c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est que Terry Gilliam, il voulait défendre sa vision du film. Les frères Weinstein disaient: ah non, nous on veut notre version. Du coup, Terry Gilliam, il en a eu assez. Il a dit: bon, attendez, moi je vais aller tourner un autre film que j'ai en préparation, la Thaïlande, qui sortira bientôt chez nous d'ailleurs, tourné au Canada avec très peu d'acteurs. Quand je reviendrai, on verra ça. Du coup, le résultat, le film, il le dit dans l'interview de Première, parce qu'il y a aussi l'interview de Terry Gilliam, en fait, c'est le film des producteurs et pas le sien, mais c'est un peu vicelard parce qu'il a quand même le final cut. Voilà, c'est pour dire ouais, non, mais c'est quand même mon film, allez-y, hein. Voilà, donc ce qui fait que il y a un symptôme, enfin un petit détail qui illustre parfaitement ça, c'est que le générique du film, évidemment, pour ceux qui connaissent Terry Gilliam, il y a toujours un générique en animation.
Eh oui, forcément.
Il
y a la Monty Python.
Voilà. Mais en fait, le générique en animation, là, c'est juste un travelling dans la forêt et paf, les frères Grimm, et ça commence. Hop, c'est juste une pauvre animation à dessous. Ça donne l'impression que c'est quand même un film de Terry Gilliam, mais pas autant que les autres.
Moi, ce qui me fait rire, alors je tiens à le signaler, je l'ai mis en lien d'ailleurs sur mon blog, il y a les scripts intégraux des Monty Python. Que l'on a tel que eux, ils les ont écrits, et à chaque fois ils mettaient l'émission s'ouvre par une animation imaginé par un Américain importé, légèrement fou dans sa tête et probablement traumatisé par les enfants dont il avait la garde quand il s'occupait d'une maternelle. Chaque fois, c'est des trucs comme ça, c'était déjà. Et c'est vrai que, bon, de ce côté-là, il a une patte qui est très particulière. Moi, je me souviens vraiment des scènes vaporeuses de Brésil, des rêves.
Oui, oui, oui.
Et de l'imagerie qu'il y met. C'est absolument monstrueux. D'Eric le Viking et tout ça. C'est toujours à la limite entre le rêve et la réalité. Ouais. Et je pense qu'effectivement, la manière dont il a traité les frères Grimm, je ne l'ai pas encore vu. Mais j'imagine que ça doit être quand même quelque chose de grandiose sur les effets.
Ah, on retrouve quand même sa patte sur certaines scènes qui sont véritablement à tomber quand même. Bon, alors on va citer. Véritablement, oui, le titre de Xavier, ça déteint sur moi. On va citer pêle-mêle quelques bonnes idées, mais ça va être assez dur parce que. Si, bon, je vais essayer de ne pas spoiler le film. On a un cheval qui dévore des enfants. On a un petit garçon qui se transforme en pain d'épices. On a un loup-garou dont les métamorphoses sont extrêmement belles. On a une sorcière dans le miroir. Alors là, c'est une petite anecdote, c'est que la sorcière, bon, évidemment, c'est Monica Bellucci qui se reflète dans le miroir. Et puis là, dans le miroir, on voit l'autre apparence de la sorcière. Ça vous dit rien? Pour ceux qui ont vu le Pacte des loups, le cauchemar que fait Samuel Le Bihan à un moment donné.
Ah, d'accord.
Terry Gilliam l'a dit dans les interviews. Il a dit, bon, j'ai piqué quelques idées à Christophe Gans. J'ai piqué la femme de Vincent Cassel. J'ai piqué le plan d'ouverture du film où les deux héros arrivent sous la pluie sur des chevaux. Ah là 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 là.
Ah là là.
Donc tout ça pour dire que au final, enfin à mon sens, on retrouve un peu la démarche qu'avait eu Tim Burton pour son Sleepy Hollow, c'est-à-dire un film de très bonne facture qui dépasse pas malheureusement le cadre de la référence, et c'est quand même une occasion pour Tim Burton autant que pour Terry Gilliam d'abord de se faire plaisir, de recycler l'univers de légende. Ça donne un film mineur, mais c'est un moyen aussi de se relancer au point de vue parmi l'industrie hollywoodienne et revenir dans la liste, la A-list des réalisateurs qui comptent. Je sais qu'il y a la A-list, la B-list, la C-list. On commence toujours par la A-list et puis après, suite au refus des réalisateurs, on passe à la B-list.
Bon, alors qui c'est qu'on a dans le fond du panier là, dans sa tiroir? Lui, oh, il est en train de faire là une adaptation pour le
X-Men 3, ouais.
C'est prévu pour quel âge, par contre? Parce que les frères Grimm, c'est plutôt les contes pour enfants, mais ce dont tu parles, ça a l'air d'être quand même...
Les frères Grimm, c'est le même public que Sleepy Hollow, franchement.
Ouais, mais la recommandation du CNC?
Ah, je m'en souviens plus, ça doit être interdit au moins de 12, je pense.
D'accord, ok, quand même. Donc, voilà. Quelque chose à savoir. On va continuer avec... Zouk, moi je change de piste à côté, avec Wong Kar Wai, directement, c'est une sortie DVD, si
ouais.
Je me trompe.
Ouais.
Vous et êtes supplément week-end et midi 47, voilà, hein, je suis obligé de dire tous les quarts d'heure que vous êtes sur FMR. Vas-y.
Ah ouais, mais c'est mieux que la dernière fois où tu m'avais coupé scandaleusement dans ma chronique pour balancer la pub. Putain,
bah, vas-y, on s'en fout, c'est les fausses pubs, alors. Vas-y.
Pas d'intro sonore, là?
Après. Pour faire la séparation avec... D'accord, ok, bon, voilà, on se gueule dessus. Ok, voilà, hein. Voilà, il va être content, le monsieur Zou.
Et quand je t'ai filé la feuille, il y avait marqué intro, pas finissage de chronique.
Bon, d'accord, ok.
La 5, Xavier.
Ah, la 5, bah oui, thank you, la 5.
Excusez-le, il débute.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar. Anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. Thank you.
saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré.
Et oui, on va parler maintenant de la sortie DVD de 2046. Ah bon, d'accord, c'est pas très frais. Le DVD est sorti il y a quelques temps déjà, mais bon, ça me tenait à cœur d'en parler parce que là, je viens de le voir et puis voilà, et puis on fait ce qu'on veut. Bon, 2046, c'est un film de Wong Kar-wai et j'en avais déjà parlé dans cette émission. Vous pouvez toujours réécouter les émissions sur
le net, site de la radio www.radio-fmr.net et ça marche aussi sur le dernier iTunes là qui est sorti, donc voilà, vous pouvez vous abonner, c'est sympa. Ouais.
Alors 2046 de Wong Kar-wai, c'est un prolongement de The Mood for Love. Donc dans ce film il y a Tony Leung, Chou Wai, il y a Zhang Ziyi, il y a Gong Li, eh oui, il y a Karina Lau, Fai Wong et alors ça c'est taille marrant, il y a marqué avec la participation exceptionnelle de Maggie Cheung. Faut savoir qu'elle a vachement tourné pour le film, mais finalement elle a été quasiment coupée au montage. C'est pour ça qu'ils ont mis les participations exceptionnelles. On la voit que dans deux plans, dont un en noir et blanc. Donc l'histoire, c'est on retrouve Monsieur Chow de In the Mood for Love. Comme c'est un écrivain, et puis bah, il décide d'écrire un roman, 2046, un roman futuriste et érotique. Qui est en fait, il se protège dans ce personnage et puis dans ce film, on a un aller-retour incessant entre la partie fictive qui est censée se dérouler dans le futur et la partie réelle où il croise, il y a quelques histoires d'amour avec différents personnages féminins filmés magnifiquement. Bon, là, une petite déconstruction narrative, c'est un peu compliqué. C'est un film à voir sur grand écran en fait, parce que moi, j'ai fait une expérience au cinéma, j'ai trouvé super beau. Bon. T'es mal assis à la fin, bon, ça. Quand c'est des petits symptômes, tu te fais chier un peu, mais bon, pas grave. Et ben là, je l'ai revu sur une petite télé, mais ça c'était.
Tu vois la sortie exit.
Et là, j'ai revu sur une mini télé, mais putain, j'ai failli m'endormir. Faut le voir sur un grand écran, franchement, là, avec où il y a les couleurs qui pètent.
Pas sur un écran 11 pouces, c'est ça.
Ouais, c'est ça. C'est, ouais.
Non, il a une télé 25 cm de diamètre, voilà, le pauvre Thomas, donc c'est pour ça qu'il a dû trouver ça un peu
pénible. Ouais, tout ça dans un canapé, bon, bref. Bon, alors, le film est très bien, hein, super poétique et tout. Alors, je vais peut-être être un peu lourd, mais bon, c'est quand même, bon, je fais quelques petits films et tout, et puis c'est un truc qui m'a vachement frappé dans ce film. Il y a Wong Kar-wai, je sais pas si vous avez, bon, il y a personne qui l'a vu à cette table.
Non.
2046.
Non.
Il a l'habitude dans ce film de filmer les personnages et les scènes. C'est en cinémascope, il les décale sur un côté et l'autre côté de l'écran est occupé par un mur, par un rideau ou par une vitre. Mmh. Et en fait, il cloisonne toutes ces séquences. C'est un tic qu'il avait déjà eu dans The Mood for Love. Bon, pas un tic parce que ça participe à la narration évidemment, mais et le propos. Mais dans ce film-là, c'est super flagrant.
Il a aussi utilisé dans un clip de DJ Shadow d'ailleurs, il me semble.
Ah, je l'ai pas vu celui-là.
Bah si, je te l'ai montré une fois, mais je savais pas que c'était lui.
Ah d'accord. Voilà. Ok, bon, mais on va enchaîner directement sur le DVD. Hein. Donc bon, ça c'est voilà le film. Vous pouvez vous précipiter dessus, les yeux fermés, c'est vraiment du très bon. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le DVD? Alors, on va détailler un peu ce qu'il y a, parce qu'il y a pas mal de trucs intéressants. Il y a 8 scènes inédites pour prolonger un petit peu l'expérience de la vision du film. 20 minutes supplémentaires, hein, quand même. Un making-of, bon, les coulisses du tournage, des entretiens avec Wong Kar-wai et ses deux principaux interprètes. On a 2046, vu par 3 critiques de cinéma. Michel Simon, je crois que de positif, Jean-Michel Frodon, alors ça doit être Quai du cinéma, il me semble, et Pascal Mérigeau. Je sais plus quel journal il collabore. On a Légende canoise, alors ça c'est un documentaire extrêmement intéressant sur la polémique qu'il y avait eu avec 2046 à Cannes. Mmh. Parce qu'en fait, il y a les journalistes, ils avaient dit ouais, il y a Wong Kar-wai, il fait monter le buzz, il dit ouais, c'est un film super attendu, tout le monde va en parler comme ça, et donc voilà, tout le monde va en parler, ça va être super intéressant pour lui. En fait, pas du tout, parce qu'il faut savoir que Wong Kar-wai, bon, tous ces journaleux qui étaient à Cannes disaient ouais, cinéma asiatique, génial, Gong Li, ah ouais, épouser concubine, et Wong Kar-wai, c'est quelqu'un qui travaille dans l'urgence et qui réécrit au fur et à mesure la nuit pendant qu'il tourne. En fait, tous ces films sont des work in progress. Et la raison pour laquelle le film avait failli ne pas être montré à Cannes, c'est que pendant que les acteurs, toute l'équipe du film se changeait dans l'hôtel pour aller faire la montée des marches, bah, la pellicule elle était encore dans l'avion parce qu'il y avait un couloir aérien qui avait été spécialement réservé avec des motards prêts pour accueillir la pellicule à la bobine à, quand elle allait atterrir. Et ben ils sont allés, ils ont commencé à entrer dans la voiture. La projection, la bobine n'était même pas encore arrivée dans la salle. C'est fou. Et c'est la première fois qu'il y avait la projection de presse qui se déroulait, qui était décalée d'une demi-heure seulement de la projection officielle. Et la projection de presse, elle a démarré alors qu'il y avait une seule bobine qui était là. Et pendant que l'autre bobine était encore en l'air dans l'avion, et il y a une coupure de 30 secondes parce qu'ils n'avaient pas pu apporter la bobine à temps pour faire le calage précis. Enfin, c'est une histoire de fou.
Et il est habillé, c'est vrai que, comme tu dis, il travaille dans l'urgence. C'est vrai qu'il est habitué à ça.
Ouais.
C'est arrivé d'ailleurs plusieurs fois sur les sorties qu'il a fallu avoir des incidents pendant les copies de films.
Ah oui, mais de toute façon, à Hong Kong, il y a Sawyer qui finissait de faire le montage et la projection officielle était le soir. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Anatomie du souvenir, c'est un documentaire sur les effets spéciaux du film, les scènes d'effets spéciaux, les villes futuristes, qui a été faite par la société Boeuf Company, une compagnie française. C'était d'effets spéciaux française. Et il raconte que justement, la projection officielle à Cannes avait eu lieu alors que les scènes d'effets spéciaux n'étaient pas encore terminées, c'était en file de fer, en prévisualisation. Et Wong Kar-wai avait été tellement frappé par cette expérience, il avait presque mis à contre-cœur les scènes finalisées au bout du compte. Assez rigolo, bon, évidemment.
On a eu le film sinon en squelette.
Ouais, on l'a sur le DVD, hein, bonus. On a la galerie d'affiches, on a une numérologie, c'est une rubrique qui reprend tous les numéros du film, la chambre 2046, etc. Les numéros de cartes que tire dans une partie de cartes Gong Li et Tony Leung, qu'est-ce que ça évoque, etc. Dans la numérologie chinoise, c'est très intéressant. Bon, on a plein de trucs comme ça. Sauf que ce DVD, il faut l'acheter, enfin, il faut se le procurer, il faut le voir. Parce que dans un DVD lambda, en fait, vous avez rubrique, bon, bonus, making of, etc. Là, pas du tout. Là, ça reprend un peu le principe du film, c'est qu'on est un peu perdu dans les bonus, puisque ça prend pas les titres making of, etc., mais époque 2046, époque 1966, 1967. Quand vous allez dans l'époque 2046, vous avez la tour 993, la tour 994, et à chaque fois, ça correspond à un bonus différent. Et les bonus, ils apparaissent, le vrai nom des bonus pour savoir qu'est-ce que vous allez voir, ça apparaît que quand c'est lancé. Après, il faut faire menu. Ah merde, c'est pas ça que je voulais voir. c'est super intéressant. Bon, voilà. En tout cas, le DVD prolonge l'expérience du film. Elle est un peu perdue, super beau. Les menus sont vraiment splendides. Voilà. 2046, excellent film. Le DVD, c'est édité par TF1 Vidéo.
Bah, d'accord.
À voir.
Merci Thomas. On va passer à du sport.
Alors, ça vous dit quelque chose?
Non. Et moi, je l'ai sous les yeux, donc oui.
Ça vous dit quelque chose, quand même. Le mec en costard cravate, il rentre dans les trucs, les portes qui se ferment derrière lui.
Ça
te dit rien.
Non.
Ah, t'entends les portes qui se ferment, hein?
Ouais.
Des sas, Bloom. T'entends?
C'est quoi, le prisonnier? Non.
Non.
C'est quoi, c'est anglais, américain?
Américain.
Qui est l'interprète principal?
Américain, c'est Max la Menace, en fait.
Ah, quoi, j'ai jamais vu.
Max la Menace, le titre original qui s'appelle Get Smart, du titre c'est le nom, en fait, du personnage principal, Max la Menace. En version originale, il s'appelle Maxwell Smart. Donc, Get Smart, ça veut dire choper Smart. Ok. Interprété par Don Adams, qui nous a quittés. Il y a un peu moins d'un mois, c'était le 25 septembre dernier, à l'âge de 82 ans quand même, le bonhomme Don Adams, hein, né à New York en 1923, le 13 avril 1923, et qui a vraiment connu vraiment la gloire dans ce rôle pour la télévision de Max la Menace, une série qui est sortie sur NBC, sur la chaîne NBC aux États-Unis. Entre 65 et 69, hein, il y a quand même eu pas mal d'épisodes. C'est une série qui a été créée par Mel Brooks et Buck Henry. C'est l'un des premiers trucs Mel Brooks est sorti qui soit vraiment efficient à la télé. Hein. C'est avant qu'il fasse vraiment du cinéma, avant qu'on le connaisse en tant que cinéaste au cinéma. Bah, Mel Brooks faisait déjà de la télé. Il en a encore fait après. Hein. Il y a une autre série genre de Robin des Bois complètement
déjanté. Il y en a une qui passe sur Europe 2 télé d'ailleurs, il me semble.
Ouais. Mm. Mel Brooks donc qui est également coproducteur hein, de cette série Max la menace dont il y a eu un pilote tourné en noir et blanc de 52 minutes. Et également derrière 111 épisodes de Get Smart, hein, toutes les saisons de Get Smart, Max la menace, 111 épisodes jusqu'en 69, mais eux tournaient en couleur. Et nous, on l'a vu en noir et blanc au départ à la télé. Pour dire, outre Don Adams dans le rôle de Max Westmart, il y avait également Barbara Feldon, c'est numéro 99, hein, ça te rappelle les souvenirs, numéro 99. Édouard Platt qui jouait le rôle du chef, Dave Ketchum, l'agent 13, Stacy Keach qui joue le rôle de Carlson, c'est un autre rôle, et surtout le grand Bernie Coppel qu'on a vu justement dans d'autres films, dans les premiers films de Mel Brooks, je crois dans les producteurs, il y est dans Le Shérif est en prison, il y a Bernie Coppel, donc un grand comique américain qui joue le rôle du grand méchant du chaos qui doit infiltrer l'agence gouvernementale qui s'appelle
alors là je ne souhaite te dire
en tout cas bon bah, ils sont toujours en train de se battre,
je sais pas le Uncle
enfin bon une série complètement parodique hein, complètement délirante hein, déjà l'univers de des gadgets complètement idiots
tout à
la fameuse cloche sous laquelle ils se mettent pour parler pour être isolés, en fait ils sont obligés de gueuler dans la cloche tout le monde les entend, enfin, que des trucs comme ça, bon c'est assez délirant. 7 Emmy Awards quand même hein, pour cette série, dont 3 pour Don Adams qui jouait le rôle de Max Westworth. On a également vu un film dans les années 80 au cinéma qui s'appelle Le plus mauvais des agents secrets. C'était un des plus mauvais films qui existait avec Sylvia Kristel et Vittorio Gassman, Chercher l'erreur, et Don Adams. Hein. Il y a eu un téléfilm, Le retour de Max la menace, qui est pas mal, en 88, Get Smart Again, avec pratiquement la même distribution que la série, donc assez intéressante. Ils ont essayé de reprendre la série en 95, mais ils ont fait que 7 épisodes. Don Adams, c'est bien. De son vrai nom, il s'appelle Donald James Yarny, d'ascendance hongaro-irlandaise, c'est pas des conneries, hein, et comme il est né en 23, bah, il a fait l'armée pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était Marines à Guadalcanal, où il a chopé la malaria, il a failli en crever d'ailleurs, et c'est à la sortie de la guerre qu'il commence à s'intéresser un petit peu au métier d'acteur. Il faut dire que il était un petit peu aidé parce que sa première femme qu'il a épousée, c'était une chanteuse qui s'appelait Adams d'ailleurs. Hein, il s'appelle Yarmy, il a pris le nom, son nom de scène, c'est le nom de sa première sa première femme. Et on commence à le voir dans les shows qu'il y a sur la télé américaine. Hein, il joue en tant qu'acteur comique individuel, un stand-up comedy, c'est-à-dire les gens dans les cabarets et tout, qui font leur show tout seul comme Seinfeld maintenant de nos jours si tu veux quoi. Enfin, Seinfeld n'a plus besoin de faire ça.
C'est un peu style ce que faisait Bruno Gassio en introduction de Nulle part ailleurs, oui. C'est le mec qui chauffe quoi véritablement
c'est ça, le public qui
parle à la fois d'actualité à la fois de l'invité qu'il a.
Ouais, on le voit donc tout de suite après la guerre en 48 déjà dans le premier show d'Ed Sullivan qui s'appelait pas encore l'Ed Sullivan Show, mais qui s'appelait Toast of the Town qui était un des shows les plus regardés hein, et à l'époque Ed Sullivan il mettait pas son nom au nom de l'émission. Chez Steve Allen également en 58, chez Rosemary Clooney, on en parlait la semaine dernière, dans le show de Rosemary Clooney en 59, chez Dinah Shore en 59, chez Merv Griffin en 63, et à partir de 65, c'est là qu'il commence à avoir vachement de renommée, puisqu'il a ce personnage, donc Maxwell Smart qui l'interprète, et il apparaît dans le show de Dean Martin en 66, d'Andy Williams, de Sonny and Cher, chez Johnny Carson, il y va je sais pas combien de fois. Et après, on le voit également faire des caméos, des apparitions, et on sait que dans les années 70, il a tourné une petite série qui a pas trop bien marché, il faut dire, au début des années 70, en 71, une série qui s'appelle The Partners, où il joue le rôle d'un détective. On le connaît vachement également aux États-Unis, pas seulement les jeunes générations le connaissent pas tellement pour son rôle de Max Westmort, mais surtout parce que c'est la voix aux États-Unis d'un personnage de dessin animé et de bande dessinée qu'on a réussi à vendre aux États-Unis et qu'on a fait des films absolument magnifiques, c'est
Tintin,
l'inspecteur
non.
Gadget.
Oh, pardon, oui,
Don Adams est la voix de l'inspecteur Gadget aux États-Unis. Il a fait tous les films, tous les dessins animés, tous les films, dont celui avec Matthew Broderick en 99. C'est lui qui fait la voix originale. Il a commencé à faire des voix d'ailleurs en 63 dans la série Tennessee Tuxedo and His Tale. c'était avant Maxwell Smart, et il fait la voix de Tennessee Tuxedo, puis ensuite il fait Get Smart, The Partners en 71, où il joue le rôle de l'un du détective Lenny Crook, et ensuite dans les années 70, après cette série, il fait beaucoup d'apparitions dans les séries qui dont le fond de commerce c'est de faire apparaître des gens qu'on connaît dans d'autres séries, des acteurs. L'exemple type c'est The Love Boat, bien entendu, la Croisière s'amuse, hein. Y en a d'autres également. Croisière s'amuse, il l'a fait 5 fois en 78, en 80, puis ensuite Tir groupé de 82, 83 à 84. Il a également fait L'île fantastique en 79, et il a fait également un épisode du Fall Guy. Fall Guy, c'est Colt Seavers.
Ah oui, l'homme qui tombe à pic.
L'homme qui tombe à pic en 84. Donc tout ça donc pour Don Adams, mais qui restera surtout célèbre pour les plus vieux d'entre nous, c'est-à-dire les gens qui ont pu connaître, pu voir la série à la télé, a été diffusée en 68-69, je crois, en France, pour la première fois. Pour ceux qui le connaissent en tant que Max Smart, c'est-à-dire Max la menace, toutes les jeunes générations, surtout outre-Atlantique, le connaissent parce que ben c'est la voix, c'était la voix de l'inspecteur Gadget. Voilà, donc hommage rendu à ce grand monsieur.
Bravo.
Sinon, eh ben comme je savais que j'allais faire un pâté absolument monstrueux sur Don Adams, je me suis dit bah pour le reste vous allez vous brosser, je vais pas chercher trop longtemps.
du sport, je te rappelle que tout à l'heure il y a un combat de bœuf, donc je suppose que tu vas pas mal en parler pendant ton émission sportive, donc ouais. Essaie d'éviter de déborder pour une fois que tu nous dises pas que c'est à cause de nous.
Non, pas de problème. Hein, sinon on parlait de DVD et puis je voulais faire
attends Xavier, je te rappelle qu'on a fait les news qui ont duré jusqu'à 12h20 quand même.
Ouais.
D'accord, ok, je te mets une ambiance polar.
Non, pas la peine, on parlait de DVD justement, je voulais justement faire le joint, il parlait de DVD, je voulais faire le joint en disant, en commençant le DVD, puis ensuite t'aurais lancé la bande et tout, Get Smart, et puis j'aurais pu faire mon ma nécrologie, ça aurait été top, super pro, tu vois, mais c'est pas grave. DVD à sortir, et là ça concerne une série, et ça on en a longtemps parlé, on a beaucoup parlé.
Ambiance polar.
C'est Police District qui sort en DVD, la première saison. Elle est sortie, c'est sorti en DVD depuis le 22 septembre, il y a presque un mois, et c'est pas TF1, ça c'est du M6, mon gars. Alors ça vaut le coup, c'est vraiment
Marshall.
Bien. De toute façon, c'est la série. Bah oui, Olivier Marshall, bien sûr, avec Frédéric Renaud, Lydie Andry, je passe tous les autres. La série créée par Hugues Pagan et Olivier Marshall. Enfin, c'est vraiment du très bon. Il y a pas de problème. Hein.
C'est très bien.
Impeccable, hein. Super. Vraiment une série à voir. De toute façon, ça nous change des Navarro. Hein. Y a pas
et je me trompe ou il y a Sophie Monico dedans aussi,
ouais.
Qui joue dans H.
Ouais. Ouais, c'est la même. Ouais, la blonde.
Vraiment, ouais.
Ah ouais, elle est très bonne.
Dans H, elle accouche d'un chien. Et là, ça va vous faire drôle. Hein.
Non, très bien.
Non, Thomas, non.
Ils sont tous très bons là-dedans. Hein. Donc, je voulais pas trop me casser le chou. Donc, bah, je vous ai fait le programme pour la semaine de la soirée sur une chaîne. 13ème rue qui est dans le mois de l'horreur. Mois d'octobre sur 13ème rue, c'est le mois de l'horreur. Avec ce soir, je vous en ai parlé la semaine dernière à l'occasion du Honte de choc 2 sur 13ème rue. La semaine dernière, donc c'est des films à sketch, hein, y a 4 petits sketchs interprétés par un personnage principal, un héros interprété par des acteurs de renom ou des actrices de renom. La semaine dernière, on avait droit à James Marsters, Patsy Kensit et Jason Gedrick. James Marsters, c'est Spike dans Buffy.
Oui, excellent.
T'as tout faux. Et là, ben, ce soir, mais t'étais pas là, c'est pour ça. Ce soir, dans Honte de choc 3, toujours de 2001, et là, ils se sont mis à plusieurs pour réaliser ces 4 scénettes, on va dire, comme on parlait dans l'ancien temps. C'est Kevin Lynch et Neil Furley, et avec, dans les premiers rôles, Roger Daltrey, le chanteur des Who.
Ah,
ouais, quand même, Charisma Carpenter. Oui, encore du Buffy. Et Ilana Douglas ainsi que Jamie Kennedy. Ilana Douglas qu'on a vu dans de nombreuses séries, hein, c'est vraiment une très bonne actrice, hein, excellente. C'est la sœur d'ailleurs d'un certain Michael. Ben oui.
Si.
Michael. Je me crois pas.
C'est qui?
Ah bon d'accord.
Michael qui?
Okay. Il a pas suivi. Fossette.
Bon, tu me montrais en début d'émission la carte de remise en forme de l'inspecteur.
Kojak,
c'est tous les dimanches sur 13ème rue, donc 2 épisodes, hein, avec Vingrems dans le rôle principal, et demain, bah, Chad
Palminteri. Presque grec.
Chaz Palminteri qui revient faire. Non, dans la nouvelle version, bon, il est pas tellement grec, hein, faut dire quoi.
Okay. Oui, non, mais c'est dans la pub qui est sortie en première.
C'est demain soir, donc à 20h45 sur 13ème rue, suivi d'une rediff, mais ça fait toujours plaisir, faut se le refaire, ou si vous l'avez pas encore vu, ça vaut le coup. C'est le jour de la bête d'Alex de la Iglesia.
Encore!
Yes!
Demain soir.
Ça fait 3 fois que t'en parles, je te signale.
Mais ça fait rien, chaque fois qu'il passe, il faut en parler.
Et d'accord, tu notes.
Et suivi demain soir, vers minuit 5, d'un épisode en version originale de New York District, ça aussi j'en parle chaque semaine, de la saison 9, donc à Benjamin Bratt.
Ah bah tiens, lundi. Tant qu'on y est, tiens, tu parles pas de la sortie en DVD de la saison 2 de Nip Tuck?
Non, pourquoi?
Non. T'en as assez parlé?
Ouais. Bah, c'est diffusé actuellement, je crois, sur Paris Première, rediffusé, quoi. Sinon, lundi, Rédemption, et ça, c'est encore une rediff, puisque moi, je l'ai vu la semaine dernière, hein, tout simplement, dans cette semaine. Rédemption, donc, toujours sur 13ème rue à 20h50. Un excellent téléfilm en deux parties de.
Il va y arriver.
Je l'ai pas marqué, c'est pour ça, de la télé britannique, voilà, c'est ça, de 2002, qui date de 2002, alors l'histoire de l'inspecteur Metcalf Kenstott, qui est confronté à une série de crimes en série particulièrement odieux, parce que chaque fois on arrache la langue des gens et on peut en foutre une cuillère en argent dans la bouche, quoi. Au bout d'un moment on se rend compte que ils sont assassinés dans l'ordre, et parce qu'ils ont le nom et parce qu'ils ont un petit peu la même profession qui se rapproche des 12 apôtres du Christ. Et à la fin, je spoile pas, quoi, mais enfin je dis, on tombe dans une histoire de vengeance liée au passé un petit peu trouble de l'inspecteur qui est chargé de mener l'enquête. Ça s'appelle Rédemption. Si je vous raconte l'histoire, vous allez me prendre pour un fou, vous allez dire mais ça tient pas la route 5 minutes, et pourtant ça tient la route pendant 2 fois 1h30.
J'adore la manière qu'il y a de faire les spoilers, c'est comme dire on a un code 6 à propos de la série Ultraviolet ou ce genre de truc.
Ouais.
Alors, il est très fort, du sport on l'applaudit.
C'est vraiment très très bon, hein. L'intérêt c'est de pas dévoiler trop de toute façon, quoi, dans ce genre de truc. C'est assez meurtrier, c'est un moins 12, hein, c'est assez sanglant, hein, parce que bon, avant de se faire choper, il en dégomme bien 7 ou 8, comme ça, il arrive pratiquement à l'ensemble des apôtres de la scène, tu vois. Donc c'est pas mal. Avant qu'il pige, de toute façon, qu'il s'agit des apôtres qui sont en train de niquer, et chaque fois, Saint-André, alors crucifié dans la croix Saint-André, et l'autre est coupé en deux, comment les martyrs ont été dégommés, tu vois. Enfin, bon, avant qu'il pige, il y en a déjà 6 ou 7 qui ont été dégommés, tu vois. Bon, ça va, c'est assez.
On va avoir une alerte de l'Opus Dei, il faut dire supplicier.
L'inspecteur Metcalf, donc, qui dirige cette enquête, est interprété par Ken Stott. Excellent, il y a également Neil DeJohn et Michelle Forbes. Au départ, je me suis dit, tiens, mais c'est marrant, je la connais, celle-là, on dirait Michelle Forbes. Et en fait, c'est bien elle, mais ils ont maquillé son grain de beauté, donc son grain de beauté, tu le remarques pas au départ.
Ah, d'accord.
Mais quand il y a des gros plans, vu que c'est la copine sourde-muette de l'inspecteur Metcalf, Ken Stott. Eh bien, tu te rends compte quand même que c'est elle, quoi. Voilà.
Bon, Xavier, Michel Forbes.
Ça, c'est lundi soir, donc.
On le connaît tous les deux parce qu'il apparaît dans Los Angeles 2013 de Carpenter, notamment.
Notamment, elle joue également un rôle récurrent dans Homicide dernières saisons et dans de nombreux X téléfilms, de toute façon.
X, je m'attendais à un truc.
Et elle est canadienne, me semble-t-il. Sinon, mardi, c'est série allemande sur 13ème rue avec Brigade de Crime, de 19h50 à Fire and Swansea. D'accord, suivi par un film d'horreur suédois qui peut être intéressant, qui s'appelle Sleepwalker, qui date de l'an 2000. Alors c'est pas la peine que je vous donne les noms du réalisateur ni des acteurs, parce que vous... Que dalle, laisse tomber, c'est pas la peine. Mercredi sur 13ème rue, Wolf Lake, alors encore 2 épisodes à 20h50 avec toujours Lou Diamond Phillips, Mia Kirchner, Tim Matson. Enfin bon, c'est pas mal, hein, quand même, ça se laisse regarder, Wolf Lake. Suivi à 22h30, c'est là que c'est le plus intéressant. D'un documentaire de Didier Alouche, Wes Craven dans l'œil de la terreur, un petit docu d'une demi-heure, suivi des maîtres de l'horreur, un documentaire en version originale présenté par Bruce Campbell, qu'on ne présente plus,
acteur fétiche de Sam Raimi.
Evil Dead, les trois Evil Dead, et puis beaucoup d'autres trucs, hein. Bruce Campbell, on présente plus de toute façon, pas de problème, hein. C'est Bruce Campbell, merde, quoi. Jeudi, toujours sur 13ème rue, un spécial Jennifer Love. Eh oui!
Oh non!
Alors, avec une programmation qui suit de l'enfer, de la mort.
Ouais, souviens-toi, t'es dernier, 1, 2, 3, 4.
Ouais, mais c'est ça. Il commence à 20h50 par le 2. Et à 22h30, t'as le 1. on commence à 22h50 par le Danny Cannon de 99 et à 22h30 le Jim Gillespie original de 98. C'est comme ça.
Ah, c'est original.
C'est jeudi prochain sur 13ème rue. Bah, c'est pour ça que j'en parle. Hein. Et vendredi, bah, c'est soirée New York District, donc avec un épisode inédit à 20h50 de la saison 14 et un autre de la saison 13 à 22h30. Final Scream, un film de 2001, téléfilm américain de David Decoteau avec Gianni Gannon et Mélissa René Martin. Waouh, ça c'est du bon.
Yes.
Voilà, c'est tout.
Eh ben tant mieux. Bonjour.
Ouais, attends, j'avais oublié la piqûre. Ah, petite piqûre de rappel avec Alias qui démarre sur M6 la saison 4 alors que s'achève sur TVA, c'est con.
Cette semaine ça commence?
Ouais, cette semaine à partir de jeudi 20h50 cool. La saison 4 d'Alias. Hein. C'est con parce que sur TVA il diffusait en version originale, donc c'est un peu con quoi.
Ah toi tu as eu la version originale, moi j'ai eu la version française.
Il y a également Dragnet, donc je rappelle hein, la nouvelle version hein, excellente hein, à ne pas louper, c'est sur TF6 tous les mercredis à 20h50. Une série inédite sur une chaîne qui n'en est pas moins, Europe 2 TV, ouais.
Qui se lance tout à l'heure à 17h17.
Et ouais. Et avec une série de l'enfer qui tue. Parce que c'est une série qui est produite par Mel Gibson, hein, qui s'inspire un petit peu de sa vie privée. Il est père de 7 gosses, donc 7 gosses à la maison, tu peux voir ce que ça fait. Et donc, il a attiré une série. C'est l'histoire d'un pompier qui s'appelle Nick Savage et qui est seul pour élever 5 gamins. Et qui est pompier en même temps, donc ça s'appelle Les Sauvages. Ce qui est une traduction totalement nulle hein, du titre original de Savages, mais la famille Savage hein, en anglais. Hein. Donc là, ça s'appelle Les Sauvages, c'est complètement ridicule. Interprété le rôle du papa par Keith Carradine, hein, et Gibson est producteur, réalisateur du pilote, et également interprète de l'officier Cox dans plusieurs épisodes. Il y a eu 19 épisodes seulement, la série s'est arrêtée, et ça c'est à voir donc sur Europe 2 TV. Tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à 18h45.
Elle s'est arrêtée parce qu'elle avait pas de succès aux États-Unis.
Ah bah oui, certainement. T'as vu le sujet un peu quoi. Laisse tomber quoi.
Après
Ultraviolet, bah vous avez vu, c'était rapide. Hein, y a pas beaucoup d'épisodes d'Ultraviolet sur France 4 le samedi soir, c'est-à-dire ce soir après West Wing à 22h25. Eh ben on nous met du britannique. Hein, France 4 qui va. Il y a vraiment de bonnes choses dans les tiroirs de France Télé hein, en ce qui concerne les séries britanniques.
En train de préparer un jingle, il y a deux jingles d'alerte pour toi. Ah, il y a une alerte BBC, une alerte HBO. Et bon, Thomas aussi, hein, toi aussi tu vas de quoi t'inquiéter. Mais comme moi je suis aux manettes, j'en ai pas.
Nouvelle série donc ce soir sur France 4 après West Wing à 22h25, ça s'appelle Strange. Et ça n'a rien à voir avec les super-héros, non. Plutôt des histoires d'exorcisme, on va dire, hein, avec des curés, avec des infirmières. Il y a Richard Coyle qui joue dedans, il y a Samantha Janus, Ian Richardson et Samuel Barnett. Deux épisodes diffusés ce soir, dont le pilote. Donc c'est pour ça qu'il faudra être devant son écran ce soir sur France 4 à 22h25. Et là c'est vrai, j'ai complètement terminé.
D'accord.
Ah, en fait, tiens, ça me fait penser. J'ai peut-être un truc pour toi, du sport.
Attention.
Je sais que tu es collectionneur fou de casquettes.
Ah ouais.
Tiens, casquette promo pour la qui date de 98. Elle a vu le soleil et tout. Bon, tu peux la jeter si c'est pas bien. Je me suis dit, tiens, ça...
trop cool, voilà. Quoi.
Au cas où il pleut, comme...
Radio éphémère, il est 13h18. Eh ben, ma foi, on va envoyer dans le raccourci pendant que Thomas va faire le résumé de l'émission. Moi, je vais passer de l'autre côté et, mince, du sport est monté. Donc, on va y aller. Thomas, tu sors le...
Tu sors ?
Non, tu sors pas, tu restes puisqu'en fait, tu as entre les mains le procès verbal du résumé de l'émission du sport. S'il te plaît,
Moi, c'est Thomas.
Si on a manqué le début, qu'est-ce que l'on a manqué ?
Eh bien, on a manqué... moi, j'ai été séché sur Buffy par du sport. On a eu une interview reportée à la semaine prochaine d'Axel du VKS. On a eu également, pour la troisième fois, du sport. Il parle du jour de la bête d'Alex Dela Iglesia. Et fait extrêmement rare dans cette émission, des futurs jingles annoncés en direct. Et on exclut, quand même, ça c'est fort. Hein.
Et d'ailleurs, des salutations à... à des gens qu'on aime bien ici. Comme ça, Zou. Vous écoutez Radio FMR en direct sur les 89.1 MHz. Et j'ai... Ah, c'est pas vrai.
Tu as oublié un papier.
Ah, voilà, parce qu'en fait, je suis passé du côté micro. Je viens d'abandonner la régie. Uniquement pour vous annoncer, donc, de notre côté, je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'était la dernière journée du printemps de septembre, qu'il y a la science, en fait, qui a lieu encore ce week-end. Mais ce soir, il y a deux choses à retenir. Primo, il y a les escales. Une association qu'on a reçue d'ailleurs ici à propos.
On a reçu Hervé Bourrois.
Voilà, exactement. C'était à Tournefeuille.
Non, c'était à la Croix-Falgarde.
À la Croix-Falgarde, voilà. Et ben ce soir, les escales sont au Cri de la Mouette. Vous savez, c'est la péniche qui est au boulevard de l'Embouchure sur le canal qui part vers les Sept Deniers. C'est une soirée électro avec, s'il vous plaît, Sync en live. Fuera des séries de Barcelone, Little Pretty Automatic DJ, Minute Zero DJ, Franck de Villeneuve, et un mix avec, si je ne me trompe, Cisco, s'il vous plaît, de Cédric et Cisco. À côté, il y a aussi le Safari Tour au Caravane Serail, c'est à Saint-Alban. En fait, ben voilà, vous partez vers Tournefeuille justement par la RN20, vous arrivez au parking du Troc de Lille. L'entrée est de 6 euros. C'est une soirée jungle, drum and bass et two step avec Cliff Burns, Miamix, Kush et SKS. Alors salutations évidemment à Kush, bien évidemment. Et tout ça, et ben c'est ce que l'on vous recommande pour ce soir.
Et tu sais qui est Cliff Burns quand même?
Non,
tu sais qui est Cliff Burns? Interprété par Ken Kershaw. C'est le frère de Pam dans Dallas, voyons.
Ouais, non, mais on s'en fout. Non, mais du sport, on s'en fout, de toute façon.
De toute façon, là, tu vois, du sport, là, ça va être à toi. Donc, s'il te plaît, tu passes la caméra sur le plan d'ensemble de voilà. La régie. Et nous, on tasse professionnellement nos feuilles. Voilà. Du sport avec vous jusqu'à 15h. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine à partir de midi.
Ciao.
Ouais, avec pas mal de petites choses. Dont la rubrique pris par la patrouille pour des mines débarrées, mais enfin cette semaine c'est léger. Du foot avec on y arrive bientôt là, on connaîtra bientôt. Il en reste 5 encore, 5 pays, on sait pas d'où ils viennent, on sait pas qui ils seront et qui participeront la saison prochaine ou l'an prochain à la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Ouais, il y en a encore 5. On en connaît déjà 27, mon gars. Il y a également la 11e journée du championnat de France de première division. On joue également en Ligue 2. Mais en dessous, c'est la Coupe de France, mon gars, ce week-end. Coupe de France, ouais. Avec de bons chocs, foot à l'étranger. Le top 14 avec la 9e journée. Et le gros match, encore meilleur. Les footeux enfoncés carrément niqués dans ta gueule. Hein. Le PSG serait pas foutu de remplir le quart du Stade de France, je te le dis moi mon gars. Et pourtant là, un match de rugby, et à signaler que les matchs du Stade Toulousain également, à Ernest Wallon, il faut s'y prendre à l'avance parce que sinon ça se joue à guichet fermé mon petit gars. C'est ça le rugby, ouais, il faut le dire. Il y aura également un petit peu de moto et un petit peu de boxe, ainsi que la télé sportive, enfin, on verra, hein. Tout ça c'est dans le désordre bien entendu. Hein. Mais d'abord, je sais même pas ce que je vais vous mettre en plus.